France Culture, il est 18h, le journal Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. En Algérie, le FLN lâche à son tour le président Bouteflika. Le parti au pouvoir et son allié, le Rassemblement National Démocratique, suivent le chef de l'armée et recommandent la démission du chef de l'État. Quelles alternatives à l'accord de Brexit négocié par Theresa May? Les députés britanniques se penchent sur la question. Nous irons à Londres dans un instant. En France, la réforme de la fonction publique présentée en Conseil des ministres mécontente les syndicats. Ils craignent notamment le recours généralisé aux contractuels et réclament des garde-fous. La surpopulation dans les prisons persiste et les conditions de vie s'y dégradent. C'est le constat dressé par la contrôleure générale des prisons. Nous verrons quelles sont ses préconisations. L'article 102 de la Constitution algérienne serait-il la clé permettant de sortir de la crise politique? Hier, le chef d'état-major de l'armée a proposé de recourir à cet article pour destituer le président Abdelaziz Bouteflika, affaibli depuis un AVC. Aujourd'hui, le Front de Libération Nationale annonce son soutien à cette initiative, tout comme le Rassemblement National Démocratique, partenaire de la coalition au pouvoir en Algérie. Mais les manifestants, qui se massent depuis plus d'un mois maintenant dans les rues, restent pour l'instant sceptiques face à ces déclarations successives, car ce qu'ils réclament, ce n'est pas seulement un changement de visage, c'est un changement de régime. Le reportage de Kaïna Nazir à Alger.
Un général avec un ventre bedonnant, caricature d'un système qui s'est gavé sur le dos du peuple, c'est le dessin du jour à la une du quotidien El Watan que Mohamed décortique. Ce retraité ne croit pas une seule seconde que l'armée a basculé du côté du peuple.
C'est une mascarade, ils sont en train de gagner le temps, c'est pour préparer leurs nouveaux éléments.
Depuis 1962, ce sont des tricheurs. Normalement, l'armée n'a pas à faire de politique. C'est pas au général Gaïd Salah de dire qu'il doit partir ou rester ou d'invoquer l'article 102, ce qui veut dire qu'ils se sont bien mis d'accord entre eux. Tous ceux qui sont au pouvoir devraient comparaître en justice parce que ce qu'ils ont pris doit être rendu au peuple algérien. Il faut geler tous leurs biens.
Ils ont massacré l'Algérie.
Méfiance partagée aussi par Ousmane, son ami.
Non, c'est du bidon, madame. Non. Il faut qu'ils partent tous. Du planton, tu ouvres la porte, y compris les gens de la République. Ils ne sont pas avec le peuple. Non, c'est de la mafia, madame. On ne peut pas. L'armée n'a rien fait aussi, la même chose avec le gouvernement. C'est la même chose. C'est tous des mafias. Tif.
Tous pareils. Pour Ali, agent de sécurité, Gaïd Salah bluffe, car même si l'article 102 est appliqué, les hommes du clan, ceux d'Abdelaziz Bouteflika, resteront au pouvoir. Gaïd Salah, mais c'est l'un d'entre eux, il n'y a aucune confiance. Nous, ce qu'on veut, c'est des hommes neufs, ceux que le peuple aura choisis. Eux, ils veulent rester en pouvoir. Aujourd'hui, c'est au tour du RND, le Rassemblement National Démocratique, principal allié du FLN, le parti du président, de demander la démission du chef de l'État. Ilhem, qui manifeste devant la Grande Poste avec d'autres étudiants de physique-chimie, ne veut pas croire aux magouilles politiciennes. Elle se veut optimiste.
C'est pour le bien du pays. Parce qu'on n'est pas contre Bouteflika comme personne. On est contre le système. C'est un changement pour le pays. C'est pour le bien du pays. Inch'Allah.
Kaïna Nazir, envoyée spéciale de France Culture en Algérie. Brexit doux, Brexit dur ou pas de Brexit du tout, le Royaume-Uni ne sait toujours pas où il va. Les députés britanniques qui ont rejeté par deux fois l'accord négocié par Theresa May prennent donc aujourd'hui les choses en main. Ils examinent une série de motions pour explorer les alternatives au texte défendu par la Première ministre. Le président de la Chambre des communes, John Bercow, a dévoilé cet après-midi les 8 options soumises au débat puis au vote, Louise Baudet.
Oui, curieuse impression d'ailleurs devant cette assemblée qui discute du meilleur accord de divorce possible à moins de 48 heures de la date initialement prévue pour acter ce divorce. 8 options, vous l'avez dit, sont sur la table. Du no deal à l'abandon pur et simple du Brexit, en passant par un accord de libre-échange, une union douanière, le maintien dans le marché unique, sans oublier l'hypothèse d'un second référendum. Vote prévu à 19h, 20h heure française et résultat 2h après. Peu de chance qu'une majorité se dégage ce soir. Un nouveau vote est prévu lundi. Et si par extraordinaire un consensus était trouvé, rien n'obligerait Theresa May à le valider. Nouveau bras de fer en vue donc, et nouveau blocage. Sauf si d'ici là, la Première ministre parvient à faire adopter l'accord de divorce qu'elle a négocié. Theresa May n'y a pas renoncé malgré 2 rejets massifs. Elle espère toujours cette majorité qui lui fait défaut depuis des semaines et serait prête à mettre sa démission dans la balance. La Première ministre en discute depuis 1 heure maintenant avec les députés conservateurs en parallèle des débats. Négociations en coulisses pour décrocher les voix des Brexiteurs jusqu'ici violemment opposés à son accord de sortie. Signe que la Première ministre se prépare à un 3e vote, le gouvernement vient de demander à la Chambre des communes de siéger vendredi, ce qui n'était pas prévu. Theresa May doit trouver d'ici là 75 voix supplémentaires pour l'emporter, ce qui s'annonce très compliqué. La discipline de vote a en effet volé en éclats à la Chambre des communes. Ainsi, la Première ministre n'a donné aucune consigne de vote aujourd'hui, trop risquée.
Louise Baudet, en direct de Londres, on ne sait pas encore si les Britanniques participeront ou non aux élections européennes. Des élections dont nous vous proposons de suivre la campagne tous les mercredis dans le journal de 18h. Première étape de ce tour d'Europe, l'Espagne, où les européennes ne sont pas encore une priorité pour les partis politiques. Ils pensent avant tout aux législatives prévues le dimanche 28 avril. Le leader du parti Podemos, Pablo Iglesias, est revenu dans l'arène politique samedi dernier à l'issue d'un congé de paternité. Un retour très attendu qui marque le début de la campagne pour Podemos, alors que la formation de gauche radicale est en perte de vitesse. On dit même qu'elle traverse une crise sans précédent. Explication de Marie-Hélène Ballestero à Madrid.
C'est devant le musée Reina Sofía où est exposé le Guernica de Picasso que la formation de la gauche radicale a choisi d'organiser ce premier meeting de campagne samedi dernier. Un lieu hautement symbolique pour le parti car c'est ici que Podemos a célébré il y a 5 ans son dernier acte de campagne juste avant les élections européennes. C'est là que tout a démarré et 5 ans plus tard, Podemos espère retrouver la magie et l'enthousiasme de ses débuts alors que selon les sondages, le parti est en net recul, affaibli par les luttes fratricides à répétition. Samedi, après 3 mois d'absence, le leader Pablo Iglesias a fait son retour. Après un mea culpa, il a renoué avec un discours très social, s'en est pris aux multinationales, aux banques et au pouvoir des médias et s'est adressé directement à ses électeurs.
Merci aux militants, merci à toutes les personnes anonymes qui vont porter à bout de bras cette campagne électorale. C'est vous qui constituez Unidos Podemos. C'est vous qui représentez la vérité qui peut transformer ce pays. Le 28 avril, l'histoire n'est pas encore écrite. En avant, nous allons tout donner pendant cette campagne. En avant, car nous allons être de plus en plus nombreux. Que tout le monde m'accompagne, car nous allons construire ensemble cette campagne en affirmant haut et fort, l'histoire, c'est toi qui l'écris.
Cette campagne, juntos, diciendo, la historia, la escribes tú.
Les cris des militants et la chanson de Bella Ciao ont clôturé le meeting samedi soir à Madrid. Divisé et affaibli, Podemos compte bien livrer bataille jusqu'au bout, faire taire les sondages et pourquoi pas gouverner en Espagne avec l'appui des socialistes.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid. En France, La République En Marche a constitué sa liste pour les élections européennes. Elle sera menée par Nathalie Loiseau, d'où l'imminence d'un remaniement ministériel, sans doute au retour d'Édouard Philippe qui se rend ce soir au Qatar. Mais la ministre des Affaires européennes ne devrait pas être la seule à être remplacée. Le départ du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveau, pourrait lui aussi être annoncé très prochainement, Stéphane Robert.
Oui, la question lui a été posée ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Est-ce que vous aussi, Benjamin Griveau, vous quittez le gouvernement ? Il a fait une réponse qui n'en était pas une. J'ai dit que je partirais au printemps, a-t-il rétorqué. Et le printemps, c'est jusqu'au 21 juin. Mais les choses seraient, semble-t-il, en train de s'accélérer puisque sa démission est annoncée de façon imminente par plusieurs médias pour aujourd'hui ou peut-être demain. Avec le départ de Nathalie Loiseau, la fenêtre de tir c'est maintenant, sinon il faut attendre le mois de juin après les européennes. Or, Benjamin Griveau a très envie d'y aller afin de préparer les municipales à Paris l'année prochaine, d'autant que d'autres candidats sont déjà entrés dans l'arène, en particulier le mathématicien et député La République En Marche, Cédric Villani. Lui vient de publier une tribune dans le Figaro et il a prévu de réunir dès ce soir son comité d'experts pour décider comment lancer sa campagne. Il devient donc urgent pour Benjamin Griveau de se dévoiler au plus vite. Par ailleurs, Emmanuel Macron a fixé un principe de symétrie pour ses ministres. S'il souhaite partir en campagne pour les municipales, il démissionne. Et s'il ne démissionne pas, il renonce à leurs ambitions. Ce qui place l'autre ministre candidat pour la mairie de Paris, Mounir Majoubi, au pied du mur. Et donc lui aussi pourrait démissionner dans la foulée, comme Benjamin Griveau, donc aujourd'hui ou demain. Mais si leurs démissions respectives étaient avalisées, le remaniement et leur éventuel remplacement n'interviendraient pas en l'absence du Premier ministre Édouard Philippe, parti à la mi-journée pour le Qatar, et il sera de retour vendredi.
Stéphane Robert. Après les États-Unis, la Russie et la Chine, l'Inde rejoint le club très fermé des pays capables d'abattre un satellite dans l'espace par un tir de missile. Le Premier ministre indien Narendra Modi annonce que son pays a donc réussi à détruire un satellite en circulation. Prouesse technologique réussie rare. Mais cette annonce est également très politique car elle arrive 2 semaines seulement avant le début des élections législatives. L'analyse de notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcy.
C'est un ancien satellite indien hors service situé à 300 km de la Terre qui a été abattu par ce missile balistique. Et c'est un exploit technologique et stratégique. L'Inde prouve ainsi qu'elle peut détruire un orbiteur, ce qui est très utile pour se débarrasser de satellites espions ou pour réduire la visibilité des armes de ses ennemis qui fonctionnent grâce aux coordonnées GPS. Seule la Chine, la Russie et les États-Unis maîtrisent pour l'instant cette technique. Mais l'annonce est surtout extrêmement politique. À 2 semaines des législatives, le parti du BJP au pouvoir veut se poser comme le seul capable de défendre le pays contre la Chine et surtout contre le Pakistan, cet ennemi musulman traditionnel qui est sur toutes les lèvres des membres de cette formation nationaliste hindoue. Ceci encore plus depuis l'attaque de terroristes pakistanais au Cachemire indien le mois dernier. Sécurité, sécurité et sécurité, tel est donc le message de campagne du BJP et le Premier ministre Narendra Modi se présente par cette déclaration solennelle comme le père protecteur de la nation indienne.
La réforme de la fonction publique était présentée ce matin en Conseil des ministres. Le gouvernement assure vouloir rendre la fonction publique plus attractive, plus réactive, avec au passage la suppression envisagée de 120 000 postes. Mais les syndicats rejettent unanimement ce projet de loi. Ils dénoncent une vision purement budgétaire de la fonction publique. Et une des mesures qui fait débat, c'est le recours généralisé aux contractuels pour attirer des salariés venant du privé. Fabien Tastet, président de l'Association des hauts fonctionnaires territoriaux, explique pourquoi il est très réservé.
C'est pas une mauvaise idée en soi. La fonction publique, il faut qu'elle s'ouvre, qu'elle fasse appel à des profils différents. Le brassage, généralement, ça fabrique de la bonne décision. Donc, on n'est pas hostile au principe de recourir à des gens qui viennent du privé. Il y en a d'ailleurs déjà. Hein. Il y a un peu moins d'1 million de contractuels dans l'administration. Mais ce qui, en soi, est une bonne idée, devient une mauvaise idée dès lors qu'on ne l'encadre pas, qu'on ne pose pas des garde-fous. Et c'est tout le problème du texte gouvernemental. C'est que le texte gouvernemental, il pratique, comment pourrais-je le dire, une ouverture un peu à la sauvage. On ouvre aux contractuels, mais on met aucun garde-fou en termes de déontologie, en termes de rémunération, en termes d'aptitude. Et c'est ça qu'il faut travailler. Il y a des choses dans la loi sur la déontologie, mais c'est pas clair. Vous savez, nous, on sonde les Français chaque année sur leur rapport au service public. Ils sont extrêmement attentifs, nos concitoyens, aux questions de déontologie, à la prévention des conflits d'intérêts. Donc ça, c'est très important. Puis ensuite, le gouvernement, il attend un peu des miracles de cet afflux de contractuels. Et moi, je crois que le miracle ne se produira pas. On dit, s'il y a plus de contractuels, il y aura plus de souplesse, plus d'efficacité, ça coûtera moins cher. C'est pas vrai. Tous les postes dans les trois versants de la fonction publics vont être ouverts aux contractuels. Les candidats qui vont venir, ils vont demander 15, 20, 30% de plus. C'est la raison pour laquelle nous on dit qu'il faut des garde-fous sur les rémunérations. Sinon, vous allez aussi accentuer les inégalités entre les collectivités riches qui pourront aller recruter des contractuels et les payer aisément et puis des petites collectivités qui regarderont passer les trains.
Il y a eu des rassemblements syndicaux aujourd'hui près de l'Élysée et devant les préfectures pour dénoncer la réforme de la fonction publique. Une journée de mobilisation et de grève est également prévue le 9 mai. La réforme du lycée et du bac préoccupe toujours le syndicat enseignant UNSA. Cette réforme doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine pour les élèves de première. Les lycéens actuellement en classe de seconde sont donc en train de choisir en ce moment leurs 3 spécialités pour l'année prochaine. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Et l'UNSA s'interroge tout particulièrement sur la place des mathématiques dans la réforme.
Oui, si en théorie avec la fin des filières S, ES et L, les élèves pourront eux-mêmes choisir leur spécialité, ils sont encore très nombreux à prendre la spécialité mathématique pour se rassurer quant à leur future orientation, car elle ouvre les portes de la majorité des disciplines dans le supérieur. Avec 53% des effectifs actuellement, le bac S arrive toujours en tête. Sauf qu'une partie des élèves qui choisissent le bac S n'ont pas forcément le niveau. Pour Sandra Murphy de l'UNSA, professeure d'anglais à Aubonne, en région parisienne, il faut donc que le ministère prévoie également une spécialité maths intermédiaire pour ceux qui ne se destinent pas à une carrière scientifique, mais qui auront tout de même besoin des mathématiques, comme en psycho par exemple.
Il demande la spécialité maths avec une moyenne qui flirte avec le 10 parfois. Donc on sait très bien qu'ils auront des difficultés l'année prochaine. Voilà, on ne sait pas quoi leur répondre. On ne va pas leur dire non puisque leurs résultats en théorie leur permettent de choisir la spécialité maths. Mais dans les faits, on sait qu'ils seront en difficulté. Et on n'a pas d'autre choix à leur proposer. Parce que les programmes sont très ambitieux et qu'ils sont à viser vraiment purement scientifique.
Autre inquiétude, la baisse des effectifs d'enseignants. Le ministère prévoit 2600 suppressions de postes à la rentrée, ce qui aura forcément des répercussions sur la réforme du bac, selon Mohamed Atia, professeur d'histoire dans l'Académie de Lille.
Dans un contexte global où on est plutôt en hausse d'élèves au niveau des lycées, moi dans mon académie, encore une fois, on gagne des élèves et on perd des heures postes. voilà, dans la plupart des établissements. Mais sur les filières dites traditionnelles, S, L, ES, etc., on est en perte de vitesse, puisqu'effectivement, on a des heures en moins face à élèves.
Face à toutes ces inquiétudes, parents et enseignants sont donc invités à manifester ce samedi.
Hakim Kasmi, le débat sur la limitation de vitesse à 80 km/h refait surface. Hier, le Sénat a voté un amendement au projet de loi d'orientation des mobilités pour permettre aux départements de juger au cas par cas les routes qui seraient limitées à 80 km/h. Cet amendement proposé par le sénateur Les Républicains Michel Raison doit désormais être approuvé par les députés lors de la commission mixte paritaire qui sera réunie sur ce texte. Bonsoir Maxime Fayol.
Bonsoir.
Des députés qui ne semblent pas forcément opposés à revoir cette mesure très contestée.
Et oui, même si c'est une disposition phare du gouvernement, c'est surtout l'un des détonateurs de la crise sociale que connaît le pays. La majorité doit donc lâcher du lest sur les 80 km/h, estime le député Les Républicains Philippe Gosselin.
Faire confiance aux élus locaux, et on peut y associer d'ailleurs les services de l'État via les préfectures, hein, si on doute à ce point des élus locaux, c'est enfin un peu de bon sens.
Les arguments des sénateurs semblent en tout cas avoir été entendus, si l'on en croit les dires du chef de file des députés LREM, Gilles Legendre.
On sait que de toute façon, le sujet est sur la table.
Alors, reste une question centrale maintenant, c'est celle du calendrier. Et là, les députés de la majorité ne sont pas tous sur la même ligne. Jean-Baptiste Djebari, député de la Haute-Vienne, veut lui prendre le temps.
Je crois vraiment qu'on doit aller au bout de l'expérimentation pour avoir du recul. Est-ce que oui ou non cette mesure, elle aura permis de sauver des vies? Est-ce qu'elle aura été une mesure de sécurité routière utile? Et après, de regarder un peu au cas par cas, en lien avec les collectivités territoriales, de savoir là où c'est souhaitable de le maintenir et là où c'est possible d'y revenir, parce que à ce moment-là, les conditions de sécurité sont réunies pour ne pas aggraver le nombre de morts ou de blessés graves sur la route.
Et de son côté, le député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, aimerait lui aller un peu plus vite. Son département comporte plus de 4000 km de routes secondaires.
Je ne sais pas s'il faut le faire maintenant ou à l'issue de la période d'essai de 2 ans. On va voir. On va analyser ça suite au grand débat. Moi, je serais favorable à ce qu'on le fasse relativement rapidement. Ça n'aurait pas de sens d'attendre trop longtemps non plus.
Et pas sûr toutefois que les députés de la majorité cèdent dès les prochains mois lors de l'examen de la loi LOM. Quoi qu'il en soit, ce sont eux qui auront le dernier mot face aux sénateurs.
Maxime Fayol. La contrôleure générale des prisons constate l'échec de la lutte contre la surpopulation carcérale. Un nouveau record a été atteint en novembre dernier. Plus de 71 000 détenus pour 60 000 places. Pour Adeline Azan, la construction annoncée de 15 000 nouvelles places de prison est une fuite en avant. Et dans son rapport annuel, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté préconise de traiter le mal à la racine. De quelle façon exactement, Audrey Dumas ?
Alors, pour Adeline Azan, il faut donner la priorité aux alternatives à l'incarcération, comme le bracelet électronique ou la semi-liberté, tout dépend des cas. La contrôleure dénonce l'augmentation du nombre de détenus provisoires et des courtes peines. La prison ne joue plus son rôle, selon elle.
Finalement, elle consiste à enfermer de plus en plus de personnes dans des conditions qui ne vont faire qu'aggraver leur manque d'insertion dans la société.
Et les perspectives ne sont pas bonnes. Pour la contrôleure, la loi de réforme de la justice ne va pas arranger les choses.
Cette loi ne va pas faire baisser la surpopulation carcérale, puisque un certain nombre de peines qui pouvaient être aménagées dès le prononcé du jugement ne pourront plus être aménagées. Donc ces personnes seront incarcérées, pourront peut-être avoir des libérations conditionnelles par la suite, mais en tout cas, elles seront incarcérées là où elles auraient pu effectuer leur peine en milieu ouvert.
Selon Adeline Azan, la loi ne restreint pas assez le recours aux comparutions immédiates. Elle y voit une justice d'abattage et les comparutions de gilets jaunes en seraient la caricature.
Aucune enquête de personnalité, aucun renseignement sur le fait qu'il pourrait prononcer d'autres peines. Je ne veux pas commenter les cas spécifiques, mais c'est la quintessence d'une justice qui ne peut pas faire de l'individualisation des peines. Or, l'individualisation des peines, c'est ce qu'il faut faire pour arriver à prononcer des peines qui ne soient pas systématiquement des peines de prison.
La contrôleure insiste, avec la surpopulation, les conditions de vie se dégradent. Elle a présenté un dispositif à la garde des Sceaux pour y remédier, notamment en examinant les possibilités de sortie d'un prisonnier en fin de peine avant de faire rentrer d'autres détenus.
Audrey Dumas, la concertation sur la protection de l'enfance vient d'être lancée. Elle avait été annoncée en janvier par Adrien Taquet après sa nomination au secrétariat d'État chargé de la protection de l'enfance. 6 groupes de travail vont se réunir au moins une fois par mois. Le bilan de leurs travaux sera présenté fin juin. Il s'agira d'élaborer un nouveau pacte national pour la protection de l'enfance et le secrétaire d'État veut créer une commission parlementaire pour examiner d'un peu plus près la question de l'adoption de certains de ces enfants. Enfin, c'est la fin de l'épidémie de grippe en France métropolitaine. Seine. Elle a été responsable d'environ 8800 décès, selon l'Agence sanitaire Santé publique France, dont 87% chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Demain jeudi, le ciel sera chargé le matin au nord de la Loire. L'après-midi, il se dégagera côté Bretagne et Pays de la Loire, mais restera nuageux de la Normandie à la frontière belge. Les éclaircies seront plus larges du nord-est au massif central et grand soleil sur la moitié sud. Les températures minimales de moins 1 à 10 degrés du nord au sud. Maximale 13 à 17 sur la moitié nord, 16 à 20 au sud. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.